RCF. Qu'attendons-nous de l'existence ? La plupart d'entre nous désirent une vie belle et pleine, une vie faite de joie, de plaisir, de réussite. Oui, mais que faire lorsque l'obstacle, l'échec, l'épreuve s'invite sur le chemin ? On rêvait d'une vie en rose et le gris vient salir la toile de notre paysage intérieur. Parfois, c'est même l'encre noire qui recouvre tout et qui nous plonge dans le désespoir. Entre un monde en rose et un monde tout noir, entre l'idéalisation et la dépression, n'y aurait-il pas une troisième voie ? C'est la conviction du philosophe Martin Stephens qui signe chez Marabout un très bel essai intitulé « La vie en bleu ». Martin Stephens, bonjour.
Bonjour.
Vous nous invitez à vivre la vie dans tous ses aspects. Alors, l'épreuve fait partie de la vie en général ? On prend le paquet avec l'épreuve ?
Oui, c'est ça. C'est l'idée de ce livre, c'est que finalement, de la vie, il faut en effet prendre le paquet en entier. En entier, même s'il est encombrant, même s'il nous demande d'écarter les bras au maximum pour accueillir ce paquet. Et je crois que un des secrets du bonheur, c'est finalement l'amplitude d'ouverture par laquelle on va accueillir cette existence. Sachant que la vie est une coquine, Nietzsche disait « vita femina », la vie est une femme, ce pourquoi les philosophes n'y ont jamais rien compris. Et par là, il voulait dire que la vie pouvait connaître des sautes d'humeur, un côté imprévisible, un côté aussi « m'aimeras-tu jusque-là ». La vie peut-être met à l'épreuve l'amour que nous lui portons.
Vous prenez une très belle image pour parler de l'épreuve. C'est un concert, un homme qui joue du piano, et puis il y a un petit gamin qui arrive et qui tape sur le clavier. Alors, on peut imaginer la dissonance, la surprise et du musicien, la grimace des spectateurs. Et vous dites, c'est ça la vie, on essaie de jouer sa partition, et puis parfois il y a de l'imprévu, il y a des notes discordantes, et il va falloir faire avec.
Voilà, c'est ça, faire avec, ou peut-être mieux, faire à partir de cela. L'enfant capricieux symbolise aussi bien le trousseau de clés qu'on a perdu que l'être cher qu'on a perdu, c'est-à-dire ce qui vient interrompre le sens de notre vie, qui vient jeter quelque chose comme un discrédit sur ma vie telle qu'elle était, qui vient me paniquer. Et le réflexe, sans doute, le premier réflexe, c'est de dire non à cela qui vient perturber le plan, de s'accrocher à la partition. Alors oui, ce pianiste, il peut commencer par donner un coup de coude pour assommer l'enfant, ce qui laissera l'assemblée dans une certaine gêne. Il peut aussi, et je m'en méfie autant, vous parliez de troisième voie, il peut aussi complètement laisser faire l'enfant capricieux qui vient pianoter sur son piano, lâcher complètement la partition. Et de nos jours, on entend beaucoup l'éloge d'une sorte de cool attitude ou de lâcher prise qui finalement reviendrait à dire, puisque la vie ne se passe jamais comme on croyait que cela se passerait, peut-être qu'il ne faut pas s'en faire. Moi, je maintiendrai qu'en effet, on a raison de vouloir être fidèle à la partition, mais que la plus belle façon d'y être fidèle, c'est de passer son bras derrière l'enfant et, en effet, d'ajouter des consonances aux dissonances qu'il introduit dans la partition et d'improviser, d'apprivoiser finalement la dissonance et par là de montrer tout notre talent.
C'est pour ça que vous parlez d'art, art de vivre avec l'épreuve. Il va falloir improviser avec ce que la vie nous apporte, et puis on sait qu'il y a tout type d'épreuve à vous en parler. Il n'y a pas que des énormités qui nous tombent dessus. C'est effectivement le trousseau de clés qu'on perd, c'est un oubli, un rendez-vous manqué.
La seule chose dont on peut être sûr avec la vie, c'est que ça ne se passera jamais tel qu'on l'imaginait. La vie n'est pas sage comme une image, car la vie n'est pas une image, c'est une image en mouvement, et puis ça n'est pas sage comme une image, car ça n'est pas dans un cadre. La vie est souvent hors cadre. Et donc, finalement, nous devons, comme jurer fidélité à cette vie, lui dire, et c'est tout un art en effet, eh bien, dis donc, il va me falloir t'aimer jusque-là. Jusque-là, c'est-à-dire toujours un peu plus loin, toujours un peu plus et toujours un peu autrement. Je crois que notre amour de la vie, comme la fidélité vis-à-vis d'une personne, c'est comme un chèque en blanc qu'on signe, et au fur et à mesure, on va devoir créer cet amour, l'inventer.
Qui êtes-vous, Martin Stephens, pour parler de la souffrance ? Vous êtes jeune, vous allez plutôt bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. très délicat de parler de la souffrance quand on va bien, quand on a un beau métier, une femme, des enfants, et que ça marche, les livres, pas facile.
Ce que je suis, c'est que je ne suis pas une île. Vous connaissez le beau vers de John Donne qui dit nul homme n'est une île, aucun homme n'est une île. C'est-à-dire, on est tous reliés. Et donc, si jamais soi-même, on n'a pas été directement saisi par l'épreuve, en général, si l'on a un peu le cœur ouvert, l'oreille attentive, on sait que le bas blesse et que le bas blesse souvent. Donc, qui je suis quelqu'un qui suis très touché par l'épreuve des autres. Et puis, bien sûr, qui est moi-même été un peu saisi de temps en temps dans ma vie. Et c'est vrai que, comme vous dites, moi, le risque que je prends de vivre pleinement, c'est pour moi un beau risque, puisque, par exemple, j'ai des enfants. Mais il est vrai aussi que mettre un enfant au monde, par exemple, prendre le risque d'être père, d'être mère, de s'engager dans cette voie-là, c'est savoir que l'on met au monde quelqu'un d'infiniment fragile, d'infiniment vulnérable. Et au fond, même si l'on n'a pas vécu le pire, de toute façon, il y a une partie de notre cœur qui est donnée à l'inconnu, et cet inconnu, c'est l'inconnu d'une vie qui nous échappe malgré sa fragilité. Donc c'est finalement une joie d'accueillir par exemple un enfant, mais c'est aussi une épreuve.
Martin Stephens, notre époque parle de bonheur, d'épanouissement, de plaisir, et on a l'impression que c'est difficile de penser l'épreuve et de penser vivre avec. On a plutôt tendance à l'évacuer.
Oui, je crois que c'est pour ça que je suis partisan d'une troisième voie. Je crois que, au fond, on nous dit il n'y a jamais que deux chemins, un chemin sans embûches, ce qu'on appelle le bonheur, la vie en rose.
Ça, c'est la vie en rose.
Voilà.
Hein.
Et puis un chemin qui, et on touche du bois, comme on dit, qui peut rencontrer bien la maladie, le chagrin d'amour, ou alors le voisin casse-pied. Et on se dit, pourvu que je n'ai que de la vie, et bien son caractère un peu rose. L'idée, c'est au contraire de se dire que dans la vie, il y aura de toute façon, comme on a dit, l'imprévu qui nous prend à contre-pied, par derrière. Dans la vie, on tombera, comme on dit, on tombe même amoureux, après on tombe enceinte, mais on tombe malade, on tombe sur son voisin de palier qu'on n'aime pas, on tombe de son piédestal. Et la question, c'est pas de ne pas tomber, de vivre comme si, tant qu'on tient debout, ça va, et puis si jamais on doit tomber, c'est la fin des haricots. Non. Le but, c'est d'apprendre à se recevoir, à se réceptionner, comme disent les sportifs. Ça n'est pas de ne pas tomber, c'est dans notre chute à inventer la façon dont on se laisse relever.
Pourquoi appelez-vous cette troisième voie, entre donc le rose et le noir, le bleu ? Pourquoi la vie en bleu ?
Le bleu, c'est, je trouve ça assez parlant parce que quiconque prend pleinement le risque de vivre rencontrera l'obstacle qui peut le blesser, qui laissera peut-être sur sa chair un bleu. Le bleu, c'est aussi du pays où je viens, la Lorraine, le bleu de travail qu'on enfile pour faire de cette journée, de cette vie, quelque chose qui vaille la peine. Mais en effet, ça demande du travail, de l'endurance, de la persévérance et peut-être même une sorte de joie, de cœur à l'ouvrage, comme on dit. Et le bleu, ça peut être, alors c'est plein de choses, hein, le bleu du blues, ce cri qui vient des entrailles et qui, si l'on y consent, devient un chant.
Je reviens sur les épreuves avec vous, Martin Stephens, parce que vous en parlez, vous dites qu'il y a tout type d'épreuves et que les petites à répétition qui font pas de bruit sont parfois celles qui nous usent le plus.
Oui, c'est ça, c'est que quand on dit épreuve, voilà, on peut parler du deuil, du chagrin d'amour, et le livre en parle, mais c'est vrai que l'épreuve, c'est d'abord ce qui nous éprouve, hein, ce qui est quelque chose qui, en effet, peut nous taper sur les nerfs, ne serait-ce qu'un trajet de voiture qui dure, parce que la ville refait son système de bus ou que sais-je, eh bien, ça peut nous pourrir la vie. Et vous voyez, la pourriture, c'est quelque chose de lent, mais quelque chose qui finit par atteindre le cœur du fruit. Et savoir inventer la joie au cœur même de ces petites épreuves, eh bien, c'est peut-être le jour où il nous sera demandé d'en vivre une plus grande, eh bien, être davantage peut-être pas préparé, le mot ne convient pas parce que l'épreuve a toujours ce temps par lequel nous sommes assommés, mais c'est du moins savoir nourrir sa joie. Je crois que on n'a pas à se demander si on sera grand dans les grandes épreuves, on a déjà à l'être dans les toutes petites de notre vie quotidienne.
Vous parlez d'accueillir ce qui vient. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qui sortent sur ce thème. On pense à Alexandre Jolien qui a fait un essai sur l'abandon au moment présent. Il s'inscrit plutôt dans le bouddhisme, alors bien qu'ils disent qu'ils se nourrissent aussi du christianisme. Vous en êtes où ?
Moi, je déplais souvent un peu quand je ne m'affirme pas bouddhiste, et même quand j'avoue ne pas toujours me reconnaître dans, non seulement dans le bouddhisme, mais dans toutes ces spiritualités du détachement. Parce que je crois que, au contraire, dans la vie, il faut souvent s'attacher. Comme l'enfant s'attache à un moment donné dans le ventre de sa mère et par là consent à vivre. Et je crois que toutes les spiritualités qui nous proposent le détachement, une attitude zen face aux épreuves de la vie, eh bien ces spiritualités peut-être servent davantage notre confort que l'effort que nous devons soutenir pour être auprès des gens qui souffrent, si ce sont nos proches par exemple.
La vie en bleu, c'est le titre du dernier essai du philosophe Martin Stephens, paru aux éditions Marabout. Un livre dans lequel le philosophe nous invite à avoir le sens de la vie en y intégrant les joies, mais aussi les peines et les épreuves qui ne manqueront pas de surgir. Martin Stephens, vous dites qu'il ne s'agit pas de positiver quand l'épreuve arrive. Alors on entend beaucoup ce discours, « Ah, mais il faut positiver, il faut voir la vie en rose ». Et vous nous disiez que la première chose, c'est plutôt de reconnaître que ça fait mal.
Je crois qu'on se trompe quand on pense que le but de la vie, c'est d'être à tout prix heureux. Parce que on peut trouver des moyens de fuite, d'éviction pour être heureux, qui fait que on passera à côté de sa vie. Je crois que le but de la vie, c'est d'être là où l'on est appelé à être. Et c'est un peu un paradoxe de se dire, mais pour être là où l'on est, il faut un effort. Bien oui, il faut un effort d'attention, il faut un effort d'écoute. Quand des personnes reprochent à une femme qui se tient près de son enfant malade et qui lui disent, oui, mais n'oublie pas de t'épanouir. Oui, mais peut-être qu'il lui a été demandé de pousser, donc de s'épanouir, de fleurir là où sa fille est malade. Donc vous voyez, déjà, poser le bonheur comme un but, ça suppose toujours qu'on n'est pas heureux et qu'on doit le devenir. Et en plus, peut-être que le bonheur, c'est la joie qui accompagne l'idée qu'on se dit, eh bien, c'est peut-être dur, mais c'est ma vie. Telle est mon existence. Et donc, c'est pour ça, vouloir positiver tout de suite, mais si ce que j'ai à vivre, c'est un creux, c'est-à-dire quelque chose de négatif, eh bien, positiver, c'est dire, eh ben non, le creux, tu l'évites. Ah, mais s'il fait partie de ma vie, si c'est un chapitre de mon histoire, ça veut dire que, malheureusement, je vais essayer de sauter des pages.
Vous pensez justement qu'on laisse peu la possibilité aujourd'hui dans notre monde de vivre pleinement la dépression, le deuil, les tuiles, et que l'écoute n'est pas là au rendez-vous, justement, la possibilité de dire « bah non, ça va pas, et c'est pas pour ça que je vais aller prendre des antidépresseurs ».
Déjà même dans le fait de par exemple, d'avoir préféré massivement plutôt la psychologie à la philosophie, c'est-à-dire de diagnostiquer chacune de nos états d'âme négatifs, chacun de nos états d'âme négatifs, d'avoir dit « bon, ben voilà, c'est une dépression, c'est etc. » Alors que si l'on se dit que la négativité, l'épreuve, le combat fait partie de l'existence, eh bien, il se peut que parfois, en effet, nous soyons assommés, parfois, au contraire, nous soyons dans l'épreuve. Et en effet, parfois, sous couvert du diagnostic, on culpabilise un peu ce temps de la tristesse. Moi, je pense souvent, avec beaucoup d'affection, à la figure de Rachel qui, ayant perdu son fils, affirmait qu'elle ne voulait pas être consolée. Et il faut se méfier de ces consolateurs qui vont nous dire « rebondis » en voulant même pas qu'on touche le sol, ce qui nous permettrait de rebondir, qui nous disent « positive » alors même que, eh bien, le creux de la vague, si l'on y est, c'est qu'on y est.
Un autre personnage de la Bible qui parle de ça, c'est Job. Job, c'est cet homme qui a tout et qui va tout perdre, ses richesses, sa famille, ses difficultés, sur difficultés. Et Job va crier.
Oui, Job, c'est l'homme juste à qui la vie non seulement ne réussit pas, mais lui offre un échec cuisant d'ailleurs. J'aime bien l'expression échec cuisant parce qu'au fond, ça veut dire qu'on est cuit par lui, qu'il y a quelque chose peut-être de notre croissance propre qui se joue par là. Bon, mais en tout cas, Job, il est en effet assommé et ses amis, quand même, ils se taisent pendant 7 jours en voyant cet homme effondré. Mais à un moment donné, ils disent, bon, il y a bien une raison. Et lui clame son innocence et il crie contre Dieu. C'est Simone Veil qui dit que les cris de Job ne sont pas un blasphème, comme le pensent ses amis, mais elle dit c'est un authentique cri qui sera celui du Christ. Et quand Dieu intervient, eh bien, il demande à Job de prier pour ses amis, et non pas aux amis de Job, qui voulaient le consoler à tout prix, de prier pour Job, parce que c'est les mauvais consolateurs qui sont en tort.
Mais pourquoi c'est important de crier, de pleurer quand on traverse une épreuve ?
Bien parce que c'est en accueillir le coup. On ne peut traverser l'épreuve que si l'on y consent à cette épreuve, que si on la nomme. Et consentir à l'épreuve, c'est un peu paradoxalement aussi consentir au fait que là, on n'arrive pas à y consentir. C'est consentir au fait que, eh bien là, noir, c'est noir, vous voyez. Alors après, il y a le risque, évidemment, de se complaire là-dedans. Mais je crois que on risque d'autant plus de s'y complaire si on ne nomme pas l'épreuve et qu'on invente des stratégies. Il y en a beaucoup, hein. Dans le livre, je mentionne ces amis qui, au lieu de parler de divorce, de séparation, nomme ça une création d'une nouvelle relation avec deux maisons, etc. Et tout est une bonne nouvelle. Malheureusement, il va falloir à un moment donné prendre acte du réel pour non pas en rester là, mais pour inventer, improviser à partir de ce réel-là une histoire qui soit plus grande que ce réel-là.
Martin Stephens, vous disiez que c'est important de nommer l'épreuve. Vous parliez des enfants, hein. Dire aux enfants la réalité de la perte. Vous êtes père de famille et vous dites que ça commence très tôt finalement. Rentrer dans la vie avec toute sa complexité, avec ses joies, ses deuils, ses pertes, ça s'apprend dès l'enfance.
Oui, ayant la chance d'être chrétien, il y a des moments de prière familiale où l'on prie pour des personnes qui ne vont pas bien, ou alors pour des personnes qui décèdent. Et je remarque que les enfants, eh bien, sont très touchés, hein, par le fait de la souffrance, de la maladie, de la mort, ou de l'agression quand on prie pour une personne proche qui vit des choses pas marrantes au travail, donc de la présence du mal et du malheur. Bon, mais je crois que c'est vraiment important de leur montrer que c'est là et que pourtant on ne va pas fuir, c'est là et pourtant on ne va pas se cacher. Et c'est vrai que dans le livre, je parle de cet épisode si touchant de la vie d'Anne-Dauphine Julien quand elle essaye de cacher la mort du cochon d'Inde à son fils aîné Gaspard, parce que cette mort du cochon d'Inde arrive un peu avant celle de la petite sœur de Gaspard. Et lui dit, mais pourquoi tu veux me cacher cette mort? Tu sais maman, si je suis pas triste, tu peux pas me consoler. Et en effet, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Si l'on veut à tout prix s'éviter toutes sortes de larmes, on ne sera même pas consolé. On ne retrouvera pas le sol dont on a besoin. Et au fond, une mère qui voudrait tellement protéger son enfant, elle l'empêcherait, elle lui éviterait d'avoir ce bienfait supérieur qui est d'être consolé sur les genoux de sa maman. Du coup, le raisonnement que j'invite à avoir, c'est ça n'est pas parce que j'aime mon enfant, il faut à tout prix que je lui épargne tout type d'épreuve, mais bien plutôt parce que dans la vie, il y aura des épreuves, il faut que mon amour pour mon enfant soit d'autant plus large et d'autant plus grand.
En même temps, Martin Stephens, je suppose que vous entendez tous ces parents aujourd'hui qui sont inquiets pour leurs enfants, qui veulent leur épargner au maximum les duretés de la vie. Il faut dire que le climat est incertain. On peut les comprendre aussi.
Ah oui, mais moi je crois qu'on ne peut que les comprendre. Moi-même, je suis un père, donc je suis un père inquiet. Mais là encore, au fond, je me dis, mais le pire, ça aurait été, parce que la vie est dure, de ne pas mettre d'enfants au monde. J'ai beaucoup d'amis qui sont de la génération un tout petit peu au-dessus de la mienne, qui ont entre 40 et 45 ans, et qui ont vraiment décidé de ne pas mettre d'enfants au monde parce que ce monde n'est pas assez bon. Et en effet, mettre un enfant au monde, j'ai envie de dire dans n'importe quel monde, hein, c'était pas nécessairement mieux il y a 3000 ans, mais mettre un enfant au monde, c'est toujours un risque et c'est toujours un beau risque.
Vous dites que si je ne veux pas souffrir, je vais vivre à moitié. Et que ça, effectivement, on peut le dire aux enfants. Et très vite, ils vont sentir qu'ils souffrent. Une histoire d'amitié rompue, très tôt, ou même des petites histoires d'amour des tout petits, là, ça brise le cœur. Ça peut être l'occasion de faire comprendre ça.
Ah oui, bien sûr, c'est de dire, mais écoute, regarde ce caillou, tu vois, il ne souffre pas, si je le jette contre ce mur, ça donnera deux cailloux, il ne résiste même pas, il n'offre même pas prise pour rester un. Toi, tu veux offrir au monde quelqu'un qui soit un, quelqu'un qui soit debout, quelqu'un qui... Eh bien, forcément, tu vas prendre des coups, mais regarde, ce qui est beau, c'est que... Pour qu'il y ait un obstacle, il faut qu'il y ait quelqu'un d'abord en course. Et donc, remettre toujours les choses à l'endroit. Le bas ne blesse que quelqu'un qui a un cœur, non pas de pierre, mais de chair. Et c'est vrai que s'offrir au monde, s'ouvrir au monde, c'est prendre le risque de souffrir, c'est vrai, mais c'est le plus beau risque qui soit.
On peut aussi se durcir, hein, vous en parlez dans le livre. La peau de crocodile là, qui se durcit parce qu'on en a bavé et qu'on ne veut plus en baver. Donc on peut reconnaître tout à fait qu'on a souffert, mais en même temps se durcir. Comment éviter cet écueil ?
À mon avis, pour éviter l'écueil du durcissement, il faut avoir un certain regard pour tout ce qui requiert que nous craquions, justement. Hein, souvent, les enfants, ça nous fait craquer dans le beau sens, quand on les trouve tout mignons. Parfois, ça nous fait craquer nerveusement quand ils posent toujours les mêmes questions. Mais en effet, est-ce qu'on a dans notre vie assez d'accueil pour ce qui vient toquer à notre porte et qui nous demande de craquer la carapace ? Et je crois que les gens qui ont rencontré des grandes épreuves ont à un moment donné un choix. Ou bien, en effet, ils font de cette épreuve une grande objection à l'existence et même au rapport avec autrui. Ou bien, ils font de cette souffrance quelque chose qui les met d'autant plus en prise directe avec la vie et avec la souffrance des autres. C'est comme si, au fond, ce trou dans ma peau qui m'a été infligé, j'avais le choix d'en faire quelque chose que je présente au monde comme un argument contre lui, que je présente aux autres comme une fin de non-recevoir ou comme quelque chose qui laisse passer la lumière. Je fais de la blessure, blessing en anglais, une bénédiction.
On retrouve cette idée de la blessure dans l'Évangile. Quand le Christ ressuscite, c'est avec ses blessures.
C'est les blessures qui permettent de reconnaître Jésus. Et les blessures ne sont pas soustraites au corps glorieux. Comme si finalement, l'affaire de Dieu, ça n'était pas que nous arrivions tout lisses et sans péché devant lui, mais de s'assurer bel et bien que nos blessures, et même celles que l'on s'inflige à soi-même par le mal, eh bien nous lui présentions en lui disant, eh bien, est-ce que tu veux faire de ça quelque chose qui est à ta gloire ?
Martin Stephens, nous disions qu'il est nécessaire de reconnaître, même si ça fait mal, de reconnaître les faits, telle épreuve, de crier aussi, de dire que l'on a mal. On n'a pas évoqué la question du pourquoi et j'aimerais qu'on en parle parce que souvent, quand il se passe quelque chose de grave dans notre vie, on se dit mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi le mal ?
Oui, c'est ça, c'est le grand cri de Job d'ailleurs. Pourquoi a-t-il vu le jour qui m'a vu naître ? Et c'est intéressant parce que, au fond, l'expérience de la souffrance, c'est bien celle qui vient faire objection à l'existence d'un Dieu bienveillant. Et en même temps, c'est celle qui, par le pourquoi, par le fait que tout à coup nous demandons des comptes à Dieu, c'est celle qui rend Dieu nécessaire. On est là face à une ambivalence que je trouve très riche parce que, au fond, l'homme qui souffre a devant lui l'objection que rien n'a de sens et pourtant c'est celui qui exige la question pourquoi, que le sens de tout ça un jour se dévoile. Le psaume 4, je crie, mon Dieu, alors réponds-moi. Et au fond, c'est, en effet, le livre dit, mais n'ayons pas peur d'être ce cri. C'est même pas d'avoir de temps en temps ce cri, car je crois que très très profondément, nous sommes ce cri qui nous confie à une réponse que nous espérons tout le temps. Et pourtant, dans le livre, je dis que ce pourquoi, il y a un danger de ce pourquoi, ce pourquoi devenait un procès à la vie. Je crois que le mystère de la vie humaine, c'est que la réponse, le fiat, Le oui de Dieu à toute sa création précède tous nos pourquoi. Le parce que est premier à nos pourquoi. Et à chaque fois que nous crions pourquoi, comme Job, il ne sera répondu par Dieu que son grand parce que. Dieu dit à Job, mais regarde, comme la création est belle, il y a dans cette création plus à aimer et à connaître que tu ne pourras jamais. Donc, que tu cries pourquoi? Au fond, c'est pour me rencontrer et je viens à toi. Mais il ne faut pas que ce pourquoi soit le procès que l'homme intente à l'existence et ne soit pas un moyen de se couper du don de l'être.
Oui, mais quand même, on peut demander, on peut se casser la tête avec cette question du pourquoi. Vous dites que on peut trouver un sens, mais quand ?
Quand, en effet. Et je crois que la première chose qui nous est demandée, ça n'est pas de tout de suite raccorder les morceaux pour essayer de deviner un sens là-dedans, parce que, à mon avis, l'épreuve peut faire éclater tout ça et même nos petits rafistolages. L'idée, c'est d'abord, comme je dis dans le livre, non pas de découvrir le sens de la vie, mais d'avoir le sens de la vie, comme on a le sens du rythme, comme on a le sens de la mélodie ou du partage. C'est-à-dire, à un moment donné, se taire et laisser à la vie le temps de nous recréer. De la même façon que si je suis blessé, eh bien je peux infecter la plaie à force de vouloir la raccommoder par ma seule volonté, ou alors, ayant désinfecté, je dois laisser faire. Et le sens de la vie, c'est ce qui nous sera donné un jour, à la fin, mais c'est pas ce à quoi on doit tenir à tout prix.
Nous voyons généralement qu'il y a une évolution dans nos brisures, qu'il y a, comme vous l'évoquiez, la blessure qui fait très très mal au début parce que c'est à vif et puis ça se referme petit à petit. Et vous parlez du temps, vous consacrez un chapitre à cette question du temps. Il faut donner du temps au temps.
Oui, et donner du temps au temps, on pourrait dire que c'est une tautologie. Hein. C'est comme il faut appeler un chat, et qu'on ne dit rien quand on dit ça. Et ça peut faire partie de ces phrases qu'on prononce pour se débarrasser des autres, et notamment quand ils souffrent. Mais si l'on analyse cette phrase, en fait, ça veut dire il faut donner à la vie le temps de se recréer à travers nous. Évidemment, quand il y a un coup, tout est en désordre. Mais ceci étant dit, vous avez remarqué, et je trouve que le modèle du corps humain est formidable pour ça, dès qu'il y a un coup, même le fait que la vie fasse un hématome, fasse un bleu d'ailleurs, le fait que la vie, tout de suite, si c'est un os cassé, tente de, et c'est pour ça qu'il faut remettre bien les os face à face, tente de tout de suite recréer, qu'est-ce que c'est que le temps qui passe? C'est déjà de la vie qui cherche et qui cherche une solution. La vie est beaucoup plus intelligente que nous. Elle le fait alors même que nous croyons que rien ne se passe et que nous sommes perpétuellement en train de couler, mais ayons l'intelligence de cette confiance qui laisse à la vie le temps de se refaire.
Ouais, vous écrivez, le temps qui passe, c'est de la vie qui cherche une voie pour se faufiler et couler à nouveau. Ça veut dire que dans le secret de notre être, il se passe quelque chose.
Oui, et faut pas oublier, parfois les catholiques oublient un peu ça, que c'est la dimension spirituelle, cette grande vie, ce grand souffle qui traverse toute la création, qui est l'Esprit Saint, et qui fait, eh bien, vous voyez, même la fleur, pour sortir du sol, a dû à un moment donné pousser la terre. Il y a eu quelque chose comme une victoire. Au fond, nous sommes tous des victoires. Chaque jour vécu a été une victoire de l'être sur le néant, de la vie sur la mort. Et soyons attentifs à cette vie qui se fait en secret. Parfois, vraiment, on peut la sentir dans le silence, le bruissement interne de notre vie. Et donc, cette intelligence, reposons-nous sur elle de temps en temps.
Martin Stephens, vous dites qu'il va falloir être patient pour traverser l'épreuve. Et si je suis impatiente?
Ben, il faut demander au plus vite la patience. C'est vrai que la patience, c'est quelque chose de très mystérieux parce que c'est l'art de ne pas savoir faire. Ne pas savoir faire, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des moments où l'on baisse les bras et ça n'est pas ce qu'il faut faire. Et il y a pourtant ces moments où, précisément, ce qu'il faut faire, c'est cesser de faire. La patience, pour moi, ça ressemble à l'écoute. Et d'ailleurs, la patience, patient, ça va être se mettre à écouter cette vie qui veut ressurgir, dont la nature propre, je crois, est le ressurgissement. Ça a rapport à l'écoute parce que quand j'écoute quelqu'un, comme les auditeurs qui nous écoutent, eh bien quand j'écoute quelqu'un, au fond, j'accepte de ne plus savoir, de ne plus savoir ce qui va se dire pour me rendre disponible à ce qui arrive dans l'événement ici du sens, par exemple, quand je parle et que quelqu'un m'écoute, ou quand j'écoute quelqu'un. Eh bien dans la patience, c'est effectivement aussi l'art de ne plus savoir, de ne plus savoir faire, pour laisser les choses se faire à notre place.
Pour laisser l'inconnu surgir avec sa part de vie, de don, qui nous dépasse.
C'est ça, et au fond, c'est toute l'histoire de notre vie dès le départ, puisque nous avons été donnés à nous-mêmes avant d'avoir voulu quoi que ce soit, avant d'avoir choisi quoi que ce soit. Et la seule chose que l'on peut faire, là encore, c'est de consentir à un moment donné à se recevoir. Eh bien, la patience, c'est se recevoir dans ses chutes. Et la patience, il y a plein de stratégies de la patience. Je crois que, par exemple, l'humour peut être une stratégie de la patience, savoir rire de soi. Parfois, quand la cinquième fois de la journée, il y a des imprévus qui nous pourrissent la vie, eh bien la cinquième fois, c'en est trop et on peut soit pleurer, soit avoir un fou rire.
Dans l'Évangile, Jésus nous invite à être justement dans cette attitude. À chaque jour suffit sa peine, vivre le présent, c'est important. C'est quand même difficile justement quand on attend quelque chose, quand on voudrait un résultat, quelqu'un qui voudrait sortir de sa maladie par exemple.
L'attente, c'est quelque chose d'épouvantable parce que l'attente, c'est une tension, un mouvement, puisque quand on attend le bus, on voit bien, on est tout tendu vers le bus, tout tendu vers le résultat qu'on attend, mais c'est un mouvement qui est condamné à l'immobilité. Si je cours vers mon bus sitôt que je le vois arriver, eh ben il va me passer sous le nez. Donc l'attente, c'est quelque chose d'inconfortable, c'est un mouvement immobile, c'est pour ça qu'on trépigne dans les salles d'attente. Et je crois que un petit truc, c'est de compléter l'attente par l'attention. Par l'attention à ce qui, dans cette salle d'attente, se donne. La dernière fois, il y avait 2h30 d'attente chez le médecin chez qui j'étais. Et finalement, je me suis dit, eh bien, au lieu de ronger ton frein, regarde, prends sous ta garde ce qui se passe devant toi. Et puis, il y avait des gens qui étaient cassés par la vie. Et puis, prie pour un tel. Et puis finalement, on a commencé tous à parler. Et puis, c'était un moment d'attention prêtée, d'attention reçue.
Je reviens à l'épreuve et au temps qui passe, parce que vous dites que parfois, malgré le temps, le mal-être peut s'installer durablement. Vous parlez de dépression, on pourrait parler d'acédie, cette espèce de dégoût de la vie dont parlent très bien les premiers moines du désert. Comment on peut faire renaître un désir qui est complètement enseveli par cette dépression ?
Oui, c'est, ou alors ce que Baudelaire appelait l'ennui, mais c'est l'épreuve effectivement dont on ne se sort pas, dont on a l'impression même que tous les efforts qu'on fait pour s'en sortir, c'est comme quelqu'un qui ne saurait pas nager, qui ferait les mauvais gestes et qui coulerait à cause de tous les gestes qu'il fait. Et là encore, ça va être la qualité d'attention, c'est-à-dire que en effet, dans ces moments-là, il faut reconnaître que ce sont des épreuves dont on ne se sort pas. Mais il est vrai que parfois, dans ces moments où le fil avec la vie est rompu, tout à coup, il nous est redonné dans des tout petites choses qui sont comme des cailloux blancs qui peuvent refaire un chemin. Mais il faut en prendre soin. Ces petites choses, il faut vraiment les recevoir comme des trésors. Tiens, je suis de nouveau sensible à la beauté du jour qui se lève. Tiens, avec tel ami, nous avons bien rigolé. C'était peut-être qu'un quart d'heure, mais attention, ça, ce sont des petits trésors qui peuvent, comme les cailloux blancs du petit poussé, finir par faire une route pour sortir de la noire forêt.
Vous dites qu'à un moment donné du cheminement, dans le temps, ça serait bien de pouvoir dire oui à l'épreuve. Je reviens sur ce oui. Le contraire, c'est non. Dire oui à l'épreuve, c'est un cap important.
C'est un cap et c'est presque inexplicable. C'est comme une décision, une pirouette. Bon, c'est les mots de Beethoven, « muss es sein, es muss sein ». Cela doit-il être ? On ne sait pas de quoi il parle, il a mis ça dans le coin d'une partition. Eh bien que cela soit, reprendre à compte d'auteur ce qui nous arrive. Reprendre à compte d'auteur l'adultère qui a brisé ma vie, cette maladie qui, en moi, a fait de moi un être diminué. À un moment donné, dire « c'est peut-être pas une vie, mais c'est la mienne ». Et c'est là où je suis. Et donc, ben oui, acquiescer, consentir. Il n'y a pas de recette pour y arriver. Il faut simplement savoir que c'est une possibilité de dire au fond, cette vie, que je conjuguerais bien au conditionnel, j'aurais pu, j'aurais dû, eh bien maintenant je la conjugue au présent, c'est celle-ci.
Comment arriver à vivre notre vie en n'occultant pas l'épreuve, mais en la traversant ? Cette question est au cœur du dernier livre de Martin Stephens, « La vie en bleu », paru aux éditions Marabout. Martin Stephens, nous avons vu avec vous que quand nous souffrons, il est salutaire de pleurer, de crier, de se donner du temps aussi pour traverser, nous en parlions. Et puis vous nous invitez à discerner, au discernement, c'est l'un des titres de votre chapitre. Discerner quoi ?
Bien déjà, discerner là où on en est par rapport à cette épreuve. Ne serait-ce que parce qu'il y a un risque, c'est de peut-être de se complaire dans sa peine. Il y a quelque chose dans le mot complaisance qui est intéressant, c'est que dans notre peine, on peut, Denis Vasse, le psychanalyste dirait, on peut jouir de son malheur et dans son malheur, parce que le malheur nous met au centre des attentions, et puis qu'être le centre, c'est agréable.
Vous voulez dire qu'il y a des bénéfices secondaires aussi à être souffrant, les autres s'occupent de nous ?
Bien sûr, c'est même quelque chose qui est un peu presque devenu une méthode politique, montrer qu'on est des victimes, qu'on est victime de ceci. Alors, la victime, c'est devenu la personne à laquelle on ne peut rien dire parce que le statut de victime la met tout de suite sous une certaine protection, voilà, une certaine sacralité.
Et on est dans une société comme ça.
Bien sûr, on est dans une société de victimes et même de combats un peu étranges. Le combat entre les victimes, c'est pas un combat où on essaierait de porter à l'autre un coup qui l'assomme, comme dans un match de boxe ou dans un vrai débat, voilà, de porter l'argument qui le fera taire. Non, c'est un combat étrange où, au contraire, on va dire que l'autre, même sans l'avoir voulu, bon, nous a fait mal, mais non, c'est toi qui m'as fait mal, etc. Et c'est vrai que je crois qu'il y a un grand courage à se reconnaître victime. Vraiment, c'est un grand courage de dire « mais là, il y a quelqu'un qui m'a pourri la vie, là, il y a quelque chose qui a brisé ma vie, là, je suis ou j'ai été inconsolable ». Il y a un grand courage à s'avouer victime, il y a quelque chose par contre de dangereux à devenir une victime, c'est-à-dire à faire de cet événement un état et une façon de se poser dans le monde, de se poser comme une victime. Donc, c'est là que j'appelle au discernement.
Alors, il y a cet aspect-là du discernement. Et puis, vous nous appelez aussi à discerner dans l'épreuve ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Pour quelle raison ?
Ça, c'est un vieux truc des philosophes stoïciens. Dans la vie, il y a deux choses. Globalement, c'est très simple et je crois que c'est très efficace. Il y a en effet ce qui dépend de moi. Voilà, il dépend de moi de manger correctement, de ne pas boire trop avant de prendre ma voiture. Bon. Et puis, il y a ce qui ne dépend pas de moi. Et les stoïciens disent, pour ce qui dépend de moi, je dois faire de mon mieux. Et ce qui ne dépend pas de moi, je dois l'accepter. Donc, vous voyez, une part de discernement. Or, c'est là que ça devient intéressant, la première des choses qui dépendent de moi, c'est la façon dont je prends, dont j'accueille ce qui ne dépend pas de moi. Les stoïciens nous disent qu'on est toujours libre, puisque si on n'est pas libre de ce qui nous arrive, il y a quand même une part de liberté dans la façon dont on prend ce qui nous arrive. Si je reviens à ma voiture et que les rétroviseurs, par exemple, gisent sur le sol, je peux dire, ben voilà, j'ai jamais de chance, je suis victime, etc. Bon, je peux aussi me dire, ben c'est comme ça, c'est pas nécessairement contre moi, c'est quelque chose qui arrive, et puis même être assez sympa avec le garagiste pour passer un bon moment.
Alors là, vous prenez un exemple facile, mais quand on m'annonce que mon enfant vient d'avoir un accident et qu'il est mort, c'est difficile là, c'est plus difficile.
Je crois qu'en effet, là c'est plus difficile. Peut-être qu'on peut quand même penser qu'il y a quelque chose de la liberté humaine qui n'est pas complètement nié. Je crois que même dans la religion chrétienne, il nous est dit que si on le veut, on peut demander cette puissance d'amour et du coup la demander et faire une place pour la recevoir qui invente l'amour en tout lieu. Et j'en parle d'autant plus franchement que je connais des gens qui ont appris à aimer là où ils étaient, par exemple dans la perte de leurs enfants. On connaît des histoires comme ça et même on aime se réchauffer auprès de ces personnes-là. On aime lire la façon dont Étienne Soum invente l'amour dans la haine. Pourquoi on aime ça ? Parce que ce sont des grands exemples de liberté. Et en effet, peut-être qu'il y a quand même cette chose qui dépend de moi, qui est non pas de croiser les bras en se repliant sur soi quand l'épreuve est trop dure, ou alors c'est le premier mouvement, et je crois qu'il faut l'accepter, que ce soit le premier mouvement, mais un jour d'ouvrir les bras, et si l'épreuve est trop grande, eh bien il nous est demandé, mais veux-tu ces bras-là les clouer au bois de ta souffrance, c'est-à-dire être comme le Christ, avoir des bras pleinement ouverts.
Je reviens avec vous sur une phrase que vous avez déjà dite, Martin Stephens. Vous écrivez « Dans la vie, il ne s'agit pas de s'attendre à tout, mais au tout. » Le « a » devient « o ». Donc s'attendre au tout, ça veut dire quoi ?
Bien, c'est s'attendre au tout de la vie. Prendre en effet la vie dans sa globalité, et c'est ça le discernement, c'est se dire « mais je voudrais la vie sans les chagrins d'amour et sans la douleur physique ». Eh bien dans ce cas-là, je veux ressembler à quelque chose comme une fougère ou un asticot. Mais si je veux être un être humain, c'est-à-dire un être qui sent, qui pense, qui a assez de profondeur en lui pour accueillir la rumeur du monde même quand celle-ci est angoissante, eh bien je serai un être qui rencontrera l'épreuve. Et donc s'attendre non pas nécessairement à tout, mais en tout cas s'attendre au tout de la vie qu'on a. C'est finalement se dire, eh bien si je veux être un être sensible, si je veux être un être ouvert, eh bien je veux aussi, même si ça n'est pas directement, eh bien avoir de l'amour, la douleur, et du corps humain, les douleurs, voilà.
Ouais, donc c'est vraiment, alors c'est vrai qu'il y a toutes les dimensions en plus, hein, dans cette dimension humaine, le corps, très important, le cœur, la psychologie et puis la spiritualité. Et c'est dans toutes ces dimensions qu'on peut souffrir aussi.
Ah oui, je crois que même quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui va finalement non pas planer au-dessus des autres, c'est pas comme ça que je conçois la spiritualité, mais au contraire peut-être plonger davantage au lieu de planer. Et je crois que l'enjeu pour chacun dans notre monde, c'est de s'approfondir, c'est de se creuser. Et les épreuves d'ailleurs nous creusent, comme les joies. À chaque fois que quelque chose nous arrive, on doit se demander non pas est-ce que ça me rend heureux ou pas, mais est-ce que ça m'aplatit ou est-ce que ça me creuse ? Et quand on a ce critère-là, et non pas l'autre, ça me plaît, ça me plaît pas, mais est-ce que ça m'aplatit ou est-ce que ça me creuse ? Eh bien finalement, on ouvre plus facilement ses bras à l'épreuve de la fidélité, à l'épreuve de la maladie, etc.
La question de la souffrance, elle est délicate. Dans le christianisme, on a pu penser qu'il fallait souffrir pour être heureux. Qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ? Parce que c'est lié étroitement à la question de l'épreuve, hein, la souffrance.
Je crois que globalement, le christianisme a quand même maintenu cette idée qu'il ne faut ni rechercher les souffrances, ni les refuser à tout prix, mais vivre celles qui nous étaient demandées de vivre comme étant des voies de sanctification. C'est-à-dire vraiment, c'est la voie du consentement que le christianisme propose. Et je crois que c'est en toute logique. Les souffrances que je me cherche ne sont pas des souffrances, puisqu'elles sont toujours proportionnées au désir que j'en ai. Le utilise que je me mets cette ceinture pour me faire mal, finalement c'est moi qui me le mets et ça flatte mon orgueil. Je me demande pas si c'est pas Saint Philippe Néri qui, parce qu'un pénitent lui racontait qu'il avait mis un cilice, lui avait dit « c'est très très bien, mais si tu cherches l'humiliation, tu vas le mettre pendant une semaine sur tes vêtements ». Et ça c'est une vraie épreuve, parce que déjà il faut l'accepter dans l'obéissance, et puis on passe pour un imbécile, et c'est ça la vraie souffrance qui nous est demandée de vivre, même dans la joie, dit le christianisme.
Et alors quel lien entre joie et souffrance ?
Le lien, il est déjà que si l'on veut absolument une vie sans souffrance, eh bien on aura aussi malheureusement une vie sans joie. Ça c'est Nietzsche, le philosophe non chrétien, qui dit ça, mais il dit que joie et souffrance sont comme deux frères jumeaux qui ou bien grandissent ensemble ou bien demeurent petits ensemble. Et il y a un lien même dans le sens où mes grandes joies, celles de la bonté des êtres, de la beauté du monde, de l'amour que je porte vis-à-vis de tel ou tel, mes grandes joies sont toujours en même temps des souffrances. Aimer, c'est faire en soi la place pour un autre que soi. On voit bien qu'il faut pousser les démeubles, que ça raye notre parquet intérieur. Ça fait mal d'aimer. Et pourtant, cette joie douloureuse est celle qui fait le cœur battant de notre vie. Sans elle, nous n'avons rien.
Suite et fin d'une série d'entretiens avec le philosophe Martin Stephens, auteur du livre « La vie en bleu » paru chez Marabout, un ouvrage sur l'art de vivre l'épreuve. Martin Stephens, « Embrasser l'épreuve », c'est le thème du dernier chapitre du livre. Généralement, on a envie d'embrasser ce qu'on aime, non ? Embrasser l'épreuve.
Oui, il y avait bien saint François d'Assise qui embrasse le lépreux.
Bah, ça n'a pas été facile pour lui.
Non, exactement. Mais au fond, c'est comme si par là, il disait, eh bien, comme ça, c'est fait. Comme ça, mes peurs d'attraper la lèpre, d'attraper une maladie, comme ça, c'est fait. Au fond, je l'ai. J'ai attrapé la maladie d'exister. J'ai attrapé la maladie de vivre. Je n'ai plus à avoir peur. Au fond, c'est comme s'il avait été au-devant de la peur, qu'il s'était comme grillé, brûlé à l'amour d'ailleurs, du prochain, en disant « bien-être pour un être humain, le bien-être qu'on recherche, c'est bien aimer. Nous sommes structurellement faits pour aimer et au fond, nous sommes faits pour embrasser. Oui, on veut embrasser ce qu'on aime, on veut même tellement les embrasser qu'on les serre dans nos bras, mais il s'agit aussi d'embrasser dans les gens qu'on aime, quand on les aime, eh bien tout ce qui en eux n'est pour nous pas aimable.
Embrasser l'épreuve, vous dites que ça dilate autant que la joie. Vous mettez ça pratiquement au même niveau.
Oui, bon,
ça dilate le cœur.
Voilà, c'est ça. On sait que la joie, c'est la dilatation du cœur. Hein. C'est, on le sent même quand on est joyeux que notre cœur se gonfle comme une voile dans laquelle viendrait se prendre le vent. Tout à coup, notre cœur est sempli, quoi, est simple. Et l'épreuve, au fond, c'est la même chose. Et je crois que si jamais on arrive au cœur d'une épreuve qui est difficile à avoir ce ressurgissement, à avoir ces mains qui sont crispées et qui ne retiennent finalement plus qu'elles-mêmes, puisque quand on a une épreuve, c'est que la vie nous a échappé. Et alors on serre les poings, on a de la transpiration dans nos poings. Et à un moment donné, on se dit, mais quoi ? Qu'est-ce que tu essayes de rattraper ? Ouvre les mains. Qu'est-ce que tu vas recevoir d'autre avec ces mains ouvertes ? C'est pas la même vie qui te sera donnée, mais c'en est une autre.
Dans ce chapitre sur l'embrassement de l'épreuve, vous parlez de Gustave Thibon. Alors moi, je le connaissais pas, c'est un philosophe, et j'ai trouvé qu'il avait des mots complètement adaptés à notre époque. Il parle d'excès de sécurité, de facilité, de distraction, une civilisation finalement amortisseur.
Avec l'idée que dans amortisseur, il y a mort, quoi. Amortir, effectivement, on veut amortir tous les coups. On veut du risque zéro. Moi, je suis pour le danger zéro, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, mais pas le risque zéro. Puisque de toute façon, s'engager est un risque, sortir de chez soi est un risque, tout est un risque. Et effectivement, Gustave Thibon dit que on est une civilisation qui est placée sous le signe de l'amortisseur. Et vous voyez, au fond, qu'est-ce que veut nous donner les gens qui s'occupent de notre bonheur ? Eh bien, ils veulent nous donner une vie sans aspérité, une vie où on n'aurait plus de raison de porter plainte ou de porter à Dieu notre plainte déchirante. Et je crois que ce serait paradoxalement peut-être ça le grand danger, qu'on se soit si bien occupé de notre bonheur que nous n'ayons même plus de place pour l'épreuve de la vie dans ses hauts et dans ses bas.
On le voit par exemple sur la question de la mort aujourd'hui, occultée, presque devenue tabou, cette question. Ça dit quelque chose justement de notre rapport à la vie, ça ?
Bien sûr, puisque on veut tuer la mort, on pourrait dire, c'est-à-dire on veut faire comme si la mort pouvait être un des moments comme les autres de la vie. Et oui, il est mort, mais il avait choisi la façon, c'était en écoutant son titre préféré de Pink Floyd, et puis à l'âge qu'il voulait, juste avant de trop vieillir, bon, avec des situations qu'on peut imaginer absurdes, je vais pêcher avec papy samedi, bien non, tu sais, il a décidé de partir, etc. Et la mort, c'est précisément ce qui advient à nous, en dehors de notre choix, en dehors de toute décision. Et donc la mort pourrait avoir ceci en commun avec l'amour qui vient à nous, avec l'enfant qui vient à nous, avec le soleil qui vient à nous, d'être ce que l'on doit consentir à recevoir. La mort, c'est ce qu'on ne choisit pas dans notre vie, mais on va se dire, mais c'est aussi le cas de l'amour, c'est aussi le cas de l'amitié, de la rencontre.
Martin Stephens, dans votre livre, vous dites que notre civilisation du plaisir peut nous faire croire que la vie est facile, qu'il n'y a pas d'épreuves, et en tout cas qu'on ne doit pas rencontrer d'épreuves, que ça n'est pas normal. Alors ça vient de la société, mais vous dites qu'il y a certaines spiritualités aussi qui nous font fuir le réel. Et vous êtes assez sévère avec les sages zen qui nivellent un petit peu les choses.
Oui, et ça peut d'ailleurs être le cas aussi de la philosophie. Finalement, de tout ce qui nous propose un mode de vie qui nous épargnerait du réel pour nous en épargner des coups. C'était Nietzsche qui disait aux stoïciens, une phrase que je trouve magnifique, il leur dit « Mais à quoi bon embrasser une statue en plein hiver ?» Parce que les stoïciens, pour s'endurcir vis-à-vis de l'épreuve, ils allaient en plein hiver tout nu embrasser des statues. Bon, à quoi bon embrasser une statue en plein hiver quand vous êtes vous-même devenu une statue ? Et en effet, toutes ces spiritualités, donc zen, bouddhiste, ou même certaines façons de vivre la foi chrétienne comme ouvrant sur un détachement qui nous permet de relativiser, etc. Tout ça, ça me fait peur. C'est la mort. Ah, c'est la mort au cœur de la vie. Dire, oh, ben, je me fais pas de soucis pour mon enfant qui pourtant est à la dérive parce que j'ai la foi. Mais non, parce que j'ai la foi, mon souci est d'autant plus inventif, d'autant plus fort.
Oui, vous dites que vous préférez à l'homme sage qui parle de détachement face à l'épreuve, l'homme qui cherche, qui pleure, qui se bat, qui fait l'aveu de sa tristesse.
C'est-à-dire, je préfère le saint au sage. Moi, ce que j'aime bien chez les saints, ce que j'aime bien dans la litanie des saints, quand on récite les noms de cette kyrielle d'hommes qui ont répondu en première personne à un appel, c'est que quand on va voir de près, ce sont des gens cassés, des gens qui tombent, mais qui consentent à se laisser relever. Bref, ce sont des histoires qui sont à portée de notre humanité, je trouve. Alors que le sage qui, pendant 3 jours, arrive dans la posture à oublier le monde, moi, il m'effraie un peu, il ressemble en effet à une statue, et je sais que je ne suis pas à sa hauteur, que sa hauteur manque un peu d'air et de chair.
Oui, alors, je rebondis sur ce que vous disiez, finalement, Jésus n'est pas un sage. Il pleure, il crie, il est désespéré à Gethsémani. On est loin des modèles de sagesse, de la zénitude.
C'est ça, ou alors c'est la sagesse qui est plus grande que la sagesse humaine. C'est-à-dire que c'est le verbe, le logos, hein, la raison qui accueille en lui ou en elle, pour si on dit la raison, le cri des hommes. Jésus, c'est Dieu qui crie à la naissance, qui crie à sa mort et qui, entre ces deux cris, eh bien, s'est appliqué à entendre celui des hommes.
Et ça nous aide ?
Oui, parce que Jésus a divinisé la vie humaine en partant de ce qu'elle était. Là où le sage oppose à la vie humaine telle qu'elle est ce qu'elle devrait être, Jésus a dit, eh bien, ce qu'elle est, c'est ce qu'elle devait être, puisque je suis venu habiter vos pas fragiles, votre chair putrescible, et je suis venu non pas simplement entendre vos cris, mais je suis même venu crier avec vous.
On va terminer par l'amour, Martin Stephens, parce que vous dites que finalement, c'est ça l'épreuve avec un grand E, c'est l'épreuve principale, aimer. Et vous prenez un exemple très concret, aimer son conjoint au quotidien.
Oui, c'est ça, et aimer, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que l'amour commence toujours quand l'amour se finit. C'est-à-dire que si je dis à ma conjointe, eh ben, écoute, voilà, c'était bien pendant ces 10 années, mais là, je ressens plus rien, je lui dis, au fond, tu n'as plus d'effet sur moi. Mais lui disant ceci, je prouve que je n'ai jamais aimé que l'effet que la personne avait sur moi, c'est-à-dire je n'ai jamais aimé que moi-même. Quand cette personne n'a plus d'effet sur moi, il m'est demandé pour la première fois, et toujours pour la première fois, c'est ça qui est fascinant, de l'aimer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de partir à sa rencontre. Et nous pouvons le faire finalement qu'avec très peu de personnes, ce que Dieu fait avec chacun, mais c'est vraiment quand je crois que c'est fini, eh bien c'est là que ça doit commencer.
Oui, vous dites d'ailleurs que je n'aime vraiment autrui que dans ses défauts.
Oui. Et d'ailleurs, on est bien peiné quand on aime quelqu'un de dire pour quelle qualité on l'aime finalement. On connaît ses défauts. J'ai un oncle, il disait ceci, il disait « L'innocence première, c'est d'aimer sans connaître. L'innocence seconde, c'est de connaître, mais d'aimer quand même. »
Donc, la grande épreuve, finalement, tous, nous la vivons.
Ah oui.
Puisque, bon, tout le monde n'est pas marié, mais on a des amitiés, on a des gens qu'on aime profondément, et il y aura toujours ce mystère d'accepter l'autre, cette épreuve d'accepter l'autre différent.
C'est ça, et cet autre, c'est aussi bien notre vie, c'est aussi bien notre existence, c'est aussi bien notre histoire. Finalement, l'amour, c'est un seul mot pour dire la façon dont j'élargis les dimensions de mon cœur à cet autre que je n'avais pas prévu comme tel. Sait-on à quoi l'on s'engage quand on s'engage en amour? Mais c'est aussi, finalement, dire oui à ma vie que je n'avais pas prévu comme tel. Donc, et c'est le même amour, c'est-à-dire la même faculté d'accroître l'amplitude de nos bras pour accueillir ce qui m'est demandé d'accueillir.
Merci à vous, Martin Stephens. Je recommande vivement la lecture de votre Vie en bleu, La Vie en bleu, parue chez Marabout. Merci à Mathias Pillon à la technique.